France Culture.
Bonjour France Culture, je vous réponds suite à votre appel sur Instagram pour vous donner notre vision un peu pour le monde en 2050 en tant que jeune né dans les années 2000. Alors voilà, moi je m'appelle Clément, je suis né en 2007 et en fait je m'imagine que en 2050 ce seront un peu des gens potentiellement avec lesquels j'aurais été à l'école ou quoi qui seront au pouvoir ou qui occuperont des postes clés. Et en fait, je m'imagine mal les voir détruire la planète et agir de manière individualiste comme certains le font aujourd'hui. J'ai l'impression que les jeunes de notre génération sont plus tournés vers le bien-être des autres que les générations d'avant. Et je crois que c'est en partie ce qui manque un peu à notre société.
2050, c'est genre dans 26 ans. Donc dans 26 ans, on peut croire genre c'est beaucoup. En même temps, c'est tellement rien. Donc beaucoup ils disent que bah ce sera genre super développé avec des technologies de partout. Quoi, on commence avec n'importe quoi entre la Chine, la Russie, l'Inde, l'Europe, tout ça. Ça fait peur, hein. Ça fait peur. En même temps, peut-être qu'il peut se passer tellement de trucs positifs. Ça se trouve, on aura plein de technologies pour aider le climat, par exemple les espèces qui sont en voie de disparition ou un moyen pour l'eau, pour la filtrer, pour qu'on. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2050, ce ne sera pas beau à voir. Hein.
Les enfants du nouveau millénaire, épisode 4, un autre futur. À quoi ressemblerait un documentaire sur notre époque ? Réalisé dans 100 ans. Le 21e siècle marque le début de la période que les historiens appellent aujourd'hui l'ère des choix. L'humanité se tenait à la croisée des chemins. Les archives numériques montrent une société tiraillée entre des avancées technologiques spectaculaires et des défis planétaires sans précédent. Dérèglement climatique et bouleversement géopolitique. À cette époque, l'humain était déjà allé sur la Lune, mais ne parvenait pas à résoudre les problèmes sur Terre. La dignité pour tous et la pérennité de l'écosystème. Des photographies de 2025 révèlent une société hyperconnectée, où les individus vivaient à la fois plus proches et plus isolés que jamais. Et pourtant, malgré les défis, cette période marquait également le début d'une prise de conscience mondiale. Une jeunesse mobilisée, des initiatives locales inspirantes, des découvertes scientifiques promettaient l'espoir d'un autre futur. Un siècle plus tard, nous observons un moment décisif, celui où l'humanité a commencé à comprendre que son destin était intimement lié à celui de sa planète et des générations futures.
Ce documentaire pourrait aussi se conclure ainsi. Les choix du XXIe siècle scellèrent le sort de l'humanité. La prise de conscience mondiale arriva trop tard. Les initiatives furent étouffées et les avancées scientifiques ne profitèrent qu'aux élites. Un siècle plus tard, nous vivons dans les ruines de cette civilisation. Les mégalopoles sont devenues des forteresses pour privilégier, tandis qu'à l'extérieur, des milliards d'exclus survivent. Épuisés, la planète ne peut plus subvenir aux besoins des habitants. Le 21e siècle ne fut pas une ère de renaissance, mais celle du renoncement. Cette présentation n'a pas été généré par une intelligence artificielle.
À quoi rêve-t-il ? Qu'est-ce qui les pousse à se mobiliser ? À espérer ? Comment répondre à cette équation impossible, celle de sauver le monde sans pouvoir en être les héros ? À cette injonction contradictoire de leurs aînés de faire mieux, mais sans briller, de s'en sortir sans dire d'où ? Comment rendent-ils leur vie tenable ? Qu'est-ce qu'on a fait des promesses du nouveau millénaire ? Dans ce dernier épisode, on retrouve la bande des Cinco Sracluros de Rueil-Malmaison, les filles de Créteil, la coloc d'Andrea et les jeunes d'Arc la Bataille en Normandie.
Ah, c'est vrai qu'autour de nous, quand on regarde la télé, quand on s'informe, c'est toujours des mauvaises nouvelles, malheureusement. Et là, depuis 6 mois, c'est infernal. Hein. Entre les événements au Proche-Orient, législative, la montée du fascisme en France, là, c'est grave. Là. là ce qui se passe. On a l'impression que le pays, il est en train de, on a l'impression que le pays, il est en train un peu de partir en sucette, quoi. Mais après, je pense que c'est des événements qui, dans le temps, vont pas forcément durer très longtemps, qui peut-être dans 10 ans, on parlera en rigolant de ce qui s'est passé. Je sais pas si dans 20 ans, on parlera des gilets jaunes. Comment on en parlera? Est-ce qu'on en parlera en rigolant de « Ah, ils ont cassé les Champs-Élysées » ou est-ce qu'on parlera en mode « Ça sera dans les livres d'histoire « Ah, regardez les gens, la France d'en bas qui vient voir la France d'en haut » ou des phrases un peu bateau comme ça, je sais pas. Mais moi, en tout cas, le catastrophisme ambiant, je le ressens surtout dans l'atmosphère. Mais pas dans ce que je vis personnellement ou dans ma manière de concevoir la vie ou de ce que je fais, quoi.
Je supporte pas l'insécurité. C'est quelque chose qui nous est imposé peut-être à un moment dans notre vie, je pense. Quand on est enfant, quand on est ado, quand on se cherche. Puis je pense que le contexte de la vie et du monde, et en plus du fait qu'on soit toujours sur une surmédiatisation, fait qu'on est toujours dans une sorte d'insécurité. On nous met un peu la pression avec faut gagner de l'argent, faut payer son loyer, faut payer les impôts, faut payer les taxes, faut manger, faut s'habiller, il fait froid l'hiver, faut prendre le chauffage. Bon, il y a beaucoup beaucoup de choses. Donc moi j'ai après je pense que j'ai un rapport particulier parce que chacun a son expérience, mais en l'occurrence, je suis quelqu'un qui suis très sensible à l'insécurité. Surtout l'insécurité matérielle et financière, c'est quelque chose qui peut me donner beaucoup de stress. Donc j'ai besoin de tout prévoir un peu en avance. On peut pas savoir ce que l'avenir nous réserve, mais on peut peut-être essayer de l'amener au mieux, de sorte à ce que ça fasse le moins mal possible, ou que ce soit le moins compliqué ou douloureux ou difficile à réaliser. Mais voilà.
Les choses sont pour le moins compliquées. Vincent Tibéri, sociologue.
Effectivement, les choses sont quand même sacrément compliquées, notamment parce qu'en plus, on parle de la génération qui a connu le Covid. En termes de santé mentale, il y a quand même une explosion des pensées dépressives, suicidaires, etc. C'est une génération qui entend parler du réchauffement climatique et de quelque part de son côté inéluctable. C'est aussi la génération qui grandit au moment où l'Ukraine est envahie, c'est la génération qui grandit à un moment où effectivement on explique que le système social coûte trop cher et qu'il va falloir en couper des bouts. C'est pas un moment guiré, mais bon, est-ce qu'il y a eu des moments guirés pour les jeunesses? Je suis pas sûr. Si vous contrastez par rapport à ce que pouvaient être certains des moments de mobilisation de la jeunesse dans les années 60 et même en 80, par exemple, où en gros, ben, la politique c'était changer la vie, c'était changer la société. Et bon, dans ce cas-là, effectivement, il y avait de quoi être enchanté.
Déclaration de Monsieur Gabriel Attal, Premier ministre, sur la jeunesse de France, pour un sursaut d'autorité, Viry-Châtillon, Essonne, le 18 avril 2024. Il est temps d'ériger comme principe dans les familles, à l'école, dans la rue, une phrase simple. Une phrase que j'ai affirmée dès ma déclaration de politique générale. Tu casses, tu répares. Tu salis, tu nettoies. Tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. C'est précisément le sens des annonces que je viens faire devant vous aujourd'hui et de la grande concertation que nous lançons avec le président de la République dans les prochaines semaines. Prendre le mal à la racine. S'attaquer au problème par tous les angles, par toutes les facettes. Restaurer l'autorité à tous les niveaux, dans la famille, à l'école.
Vincent Tibéri, comment est-ce que les politiques s'intéressent à la jeunesse ?
Alors, il s'y intéresse finalement peu. Il faut bien avoir en tête que quelque part, il y a aussi une cassure avec les milieux populaires, il y a une cassure avec les territoires relégués, que ça soit les banlieues ou la ruralité. Et il y a une cassure effectivement avec la jeunesse. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut bien avoir en tête effectivement qu'aujourd'hui, quand on parle de politique de jeunesse, étonnamment, on leur renvoie énormément de choses et on leur renvoie des injonctions contradictoires. En gros, il faudrait que ça soit des bons citoyens, il faudrait qu'ils se préparent pour intégrer le marché du travail, il faudrait qu'ils soient en même temps mobilisés pour l'intérêt collectif, et en même temps on leur renvoie l'idée qu'ils seraient une classe d'âge dangereuse. C'est-à-dire que quand on parle de la jeunesse, c'est très souvent aussi pour en réprimer les comportements. Voilà, où en gros, ça va être une politique sécuritaire, ça va être une politique de contrôle, ça va être une politique qui aboutit par exemple à vouloir réinstaurer une nouvelle version du service minimum humanitaire, mais non pas pour défendre le pays, mais d'abord et avant tout pour leur inculquer le sens de la discipline, de l'effort et de l'engagement, mais en uniforme. Un des trucs les plus frappants, ça reste quand même une relative distance face au vote hein, dans la, parmi les plus jeunes. Hein. Donc là, par exemple, aux dernières législatives, on était à quasiment un jeune sur deux qui ne s'est pas déplacé aux urnes. Et en fait, derrière, c'est pas nécessairement qu'ils ne sont pas engagés dans la politique, c'est que le vote en tant que délégation, en tant que remise de soi des élus, ça leur parle de moins en moins.
J'ai pour le coup des parents qui votent, et particulièrement ma mère qui m'a toujours poussée au vote. Et je comprends totalement la logique de certains militants, militantes, activistes, qui partent du principe que le vote, c'est pas la façon faire la... Enfin, c'est pas comme ça qu'on va acquérir plus de droits. Et je pense que c'est trop important que dans des mouvements de lutte, il y ait des chiens et des chiennes de garde, en vrai. Enfin, il y ait des gens qui soient là pour garantir une forme plus violente ou en tout cas plus incisive sur ces questions politiques-là. Moi, je sais pas encore, dans ma citoyenneté et mon parcours militant, je sais pas encore si je suis à l'aise avec le fait de le faire. Et du coup, pour moi, le vote, c'est, du coup, c'est l'étape d'avant, en fait. C'est genre, basiquement, genre, faire entendre ta voix, même si t'as l'impression qu'elle est pas écoutée. Franchement, il pourrait se passer plein de dingueries dans mon pays, je continuerai à voter, je pense. Vraiment, même si t'as l'impression que, enfin, on t'écoute pas, et en vrai, c'est souvent l'impression que t'as quand même, relativement, surtout là, ces derniers mois. Pour moi, c'est genre juste no way, quoi. Je comprends totalement qu'on ait pas envie de le faire, hein. Vraiment, ma mère, elle a pas voté à un moment au présidentiel. Non, elle a voté blanc, quand il y a eu l'appel de Mélenchon à voter blanc. Et moi, ça m'a rendu ouf, parce que j'étais là... En fait, ma sœur, c'est toi, tu me dis vote, 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 et toi, tu votes blanc. Non, mais dinguerie, tu vois. Enfin, moi, ça m'a énervé de ouf. Et avec du recul, avec de la réflexion, genre, on en discute et tout, je comprends grave son point de vue, et je comprends... Enfin, j'essaye d'être le plus compréhensible possible sur mes amis qui votent pas, sauf quand ils votent pas par flemme. Et alors là, ça me saoule.
Paris 19e. Résultat des élections législatives 2024 de la 16e circonscription de Paris. Sarah Legrain, la France insoumise, nouveau Front populaire. Élue à l'Assemblée nationale au premier tour avec 62,47% des voix. Abstention, 31,02%. Rueil-Malmaison, 92-500. Résultat des élections législatives 2024 de la 7e circonscription des Hauts-de-Seine. Pierre Cazeneuve, Renaissance Ensemble, élu à l'Assemblée nationale au premier tour avec 53,20% des voix. Abstention, 25,84%.
Est-ce que vous votez, tous les quatre? Et est-ce que vous êtes d'accord pour... Je vois ma Simo qui est en PLS.
Alors, moi ça va, hein, moi je peux en parler. Hein. Après, c'est à voter, on vote, mais on n'a pas tous la même...
La même idée.
Déjà la même opinion politique, mais aussi surtout on n'a pas tous le même engagement. Ilias, il est très engagé. Bon, je veux pas être méchant, mais Mathis, il est beaucoup moins. Moi, je suis au milieu. J'ai tous des idées différentes. Mais vu qu'on est amis, bah, on sait
ouvrir le dialogue. On sait pour qui on a voté et on connaît nos idées. Mais c'est pas pour autant que on est. Enfin, il y a forcément, on n'est pas d'accord. Il y a des sujets où on n'est pas d'accord. Mais c'est pas pour autant qu'on est dans la division, qu'on s'insulte ou qu'on se respecte pas. C'est on a nos idées politiques. Ça plaît ou ça plaît pas.
En tout cas, le consensus, c'est qu'on y va tous. Même celui qu'on a rien à foutre,
il y en a deux qui n'ont rien à faire, Virgile et Mathis, et ils y vont quand même parce qu'on les pousse.
Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'y crois pas trop à la politique en vrai. Mais c'est aussi parce que ça m'intéresse pas, mais c'est aussi, j'ai l'impression que. En fait, il y a personne qui. Je sais pas.
Ça change rien.
Tu te sens pas représenté ?
En fait, je me sens pas représenté, j'ai l'impression que les. Déjà, ils parlent. Genre, ils parlent tous de la même manière, ils parlent tous bizarrement. Ouais, c'est ça, ça me parle
le
pas.
Problème, le seul qui nous parle, et c'est un con, mais ça, c'est ok.
C'est qui ?
Mais le seul qui est jeune et qui essaie de parler aux jeunes, c'est, au final, c'est un.
Ouais.
C'est un trou de balle, mais.
Ouais.
Vas-y, balance les termes, là, dis-nous ce que tu penses. Ah, moi, j'ai pas de honte, hein. Moi, j'emmerde l'extrême droite, hein. Franchement, je suis pas. J'ai aucune honte là-dessus.
Juste, toi, Massimo, t'as souri tout à l'heure, j'imagine que tu votes pas comme tes copains.
Non. Je vote pas comme eux. Je vote différemment.
C'est pas grave, nous c'est pas un problème. Parce qu'on sait qui c'est, au fond. Et moi nous on sait, nous avec Ilyes, par exemple, on sait que c'est parce qu'il n'est pas encore assez renseigné et que non mais moi je dis ça avec beaucoup d'avance.
Ça c'est ce qu'il pense. Tu l'enfonces comme ça.
Non mais moi je l'avance pas, au contraire. Parce que c'est notre ami. Et moi je connais son fond, je sais qui c'est. Et donc je juge pas par rapport à son vote. Là où les autres, quand je crois une autre personne qui
fait une erreur une fois,
qui s'y connaît, quand une personne s'y connaît beaucoup en politique et à ce genre de vote là. Moi je la juge et je peux pas être dans
ce. Moi je peux dire parce que moi je m'y connais un peu, parce que je pense que c'est un sujet que pas que je maîtrise mais que j'ai de l'aisance à en parler, en tout cas en groupe. Je pense qu'il est tombé dans le panneau de beaucoup de gens. Mais après ça arrive. C'est la démocratie ici, on n'est pas là pour pour juger la personne par rapport à celui qui vote, sauf si les motivations de cette personne-là sont vraiment, sont vraiment déduites de son vote. Si on peut lire sur son visage pour qui il vote, quoi.
Est-ce qu'il y a une limite à la tolérance ? Est-ce qu'un certain vote n'est pas toléré dans ce groupe ou tous les votes sont tolérés ?
En fait, ça dépend de... Moi, les gens...
Tous les votes sont tolérés.
Tous les votes sont tolérés.
C'est pas un avis politique différent, ouais, c'est pas parce qu'on ne va pas le renier.
Non, mais je veux dire, Massimo, il vote pour Le Pen, par exemple, ou Jordan Bardella. Il est bienvenu ?
Bah ouais, moi, c'est notre meilleur ami. Mais en fait, encore une fois, c'est parce que on le connaît
parce qu'il a fait une erreur.
Et on sait que ses idées, enfin, ça, d'une certaine façon, ça part d'une bonne intention, mais qui est dans le mauvais bulletin et pas dans la bonne expression. Moi, quand je croise une personne et qui m'explique foncièrement pourquoi il a voté pour ça et qu'il est très sérieux dans ça et qu'il m'explique des vrais arguments, moi, je le raye de mes personnes que je côtoie parce que je peux pas être ami ou être en relation avec des gens qui ont ce genre de vote consciemment. Bon, mais Massimo, moi, je le connais très bien et je sais ça part pas d'une mauvaise intention surtout et que c'est pas dans son fond. Il est très loin de tous les.
Non mais
très loin.
Il faut dire que mais déjà, y a personne qui peut dire s'il a voté Bardella ou pas. Pour répondre à la question qu'il ait voté Le Pen ou pas, ça dépend des motivations. Là, on sait très bien qu'il a pas voté pour Bardella. Il a peut-être voté pour je sais pas l'UPR ou j'en sais rien. Moi, en tout cas, je sais pas pour qui il a voté. Moi, je pense qu'il a voté pour l'UPR aux européennes. Il a pas compris qu'il s'était Asselineau, quoi.
Donc,
qu'on l'a dit tout à l'heure, mais comme en 2017, il a voté pour Jean Lassalle, il y connaît rien. Eux deux, ils y connaissent rien, ils y piquent rien du tout. Eux, ils y piquent rien.
Moi, en fait, comme la politique, ça a pas trop d'importance dans ma vie, et j'ai l'impression que c'est beaucoup du théâtre. En fait, moi, j'accorde très peu d'importance à la politique, alors qu'eux, ils y accordent plus d'importance en tout cas. Mais du coup, moi, jamais pour un ami politique, je renierais un ami. En vrai.
Et toi, Massimo, tu dis quoi à ça ?
Parce que je m'en fiche.
Que tu sois pas assez instruit sur le vote, que tu te sois trompé, qu'est-ce que tu leur réponds ? Non,
mais toi, t'as toujours voté en plus.
En soi, c'est surtout en fait en fonction de. Déjà, d'une, ça part de l'éducation. Ça part de l'éducation et de la classe sociale dans laquelle tu vis. Déjà, à partir de ce moment-là, t'as une certaine idée politique qui commence à émerger. Chez tout le monde, c'est l'humain, c'est comme ça, c'est tes parents, tes amis, forcément quand tu vas parler avec les gens, tu vas avoir une certaine idée politique qui va commencer l'environnement qui va commencer à émerger dans ta tête et forcément tu vas commencer à t'instruire, etc. Aujourd'hui les réseaux sociaux ils aident clairement à ça, ils aident forcément avec les algorithmes, ils vont voir pour les vidéos qui t'intéressent le plus et ils vont encore plus conforter cette idée-là que t'as. Et toi, tu vas te dire, ok, pour moi c'est ça, donc je vais voter ça. Ça plaît pas, les idées, forcément, les idées sont différentes. Et après, comme Ilyes vient de dire, il y a des recherches à faire, il faut s'instruire. Il faut.
Je te l'ai dit, tu t'informes là.
C'est quand même une génération qui, du coup, a vécu un certain nombre de mauvais moments politiques. Le mandat d'un François Hollande, l'arrivée d'Emmanuel Macron et les difficultés qu'Emmanuel Macron et ses gouvernements ont eues face aux jeunesses. Alors, en fait, effectivement, pendant longtemps, on pensait que c'était un effet de cycle de vie. En gros, quand on est jeune, on n'est pas encore complètement au clair sur la politique, son intérêt, l'intérêt du vote, etc. Et donc, au fur et à mesure qu'on passerait vraiment à l'âge adulte, au fur et à mesure qu'on finirait les études, qu'on se mettrait en couple, qu'on obtiendrait un job stable, etc., on deviendrait aussi des électeurs. Mais simplement, cette manière de voir les choses, elle ne tient plus la route quand on commence à regarder aujourd'hui le comportement des générations. On se rend compte par exemple que dans la génération des quinquagénaires aujourd'hui, il y a un niveau d'abstention qui est largement supérieur à ce qu'il était pour les générations du baby-boom au moment où ils avaient le même âge, typiquement. Et donc en fait, c'est particulièrement visible et particulièrement impressionnant dans les jeunes générations, mais en fait, c'est aujourd'hui quelque chose qui touche en fait l'ensemble des catégories d'âge actives. Il fut un temps, quand on parlait d'abstention, on raisonnait en termes d'abstentionnisme sociologique, c'est-à-dire que c'était les moins diplômés, c'était les moins intégrés, et quelque part l'abstentionnisme c'était le signe d'une difficulté à s'intégrer dans la société. Cette forme d'abstentionnisme, elle existe encore, mais elle est désormais minoritaire face à d'autres abstentionnismes qui sont des abstentionnismes de refus de ce rôle et de cette démocratie telle qu'elle s'exerce. On est effectivement dans un moment bien particulier en France et dans une crise bien particulière où très clairement la démocratie que nous pratiquons est une démocratie représentatif dans lequel en fait ce sont les élus qui restent centraux et pas tant que ça les citoyens. On met pas beaucoup de place à la participation citoyenne. Les choses seraient vraisemblablement différentes si en France c'était le vote, c'était pas simplement ou uniquement élire, mais c'était aussi choisir. Mais quelque part, il faut aussi bien voir que cette désillusion face à la démocratie représentative française, qu'on trouve beaucoup chez les jeunes, c'est en fait aussi la désillusion de leurs parents, voire même de leurs grands-parents. Il faut bien avoir en tête que la crise du lien à la démocratie représentative, en fait, elle a commencé à s'initier dans les années 80. Et donc, en fait, quelque part, ce sont des jeunes qui ont vécu avec ça, qui ont vécu avec cette désillusion, qui ont vécu avec cette impression que quelque part, quels que soient les votes qu'on produit, à la fin, ce qu'on souhaite faire peut être confisqué par des élus qui décident d'en faire ce qu'ils en veulent. Alors que c'est beaucoup plus, ça pourrait être beaucoup plus que ça.
Est-ce que vous votez ?
Oui, oui, oui.
J'ai l'impression que c'est un peu la question piège. Vos copains y votent ou pas ?
Absolument pas. Pas du tout. Il dit que ça sert à rien. Après, il dit que c'est truqué, que ça sert à rien. Après, on saura jamais la vérité, mais...
Que c'est truqué, c'est-à-dire ?
Que peu importe ce qu'on vote, il n'y a jamais les personnes qu'on veut qui passent, en fait. C'est... Enfin... Après, on entend tellement de gens aussi parler que... Du coup, on sait plus trop ce qui est vrai ou non, mais c'est vrai que quand on vote des choses et qu'on entend tout le monde se plaindre de la personne qui est passée, on se dit en fait, si personne n'a voté cette personne-là, pourquoi elle est passée ? C'est vrai, au bout d'un moment, tout le monde se plaint, mais vous avez, ou alors il y en a, ils se plaignent et ils vont pas voter. Du coup, c'est, voilà, c'est un mauvais citoyen, mon conjoint.
C'est pas trop dur d'être en couple avec un mauvais citoyen, comme tu dis ? Est-ce que c'est un sujet d'engueulade ?
Non, moi ça m'est égal, je trouve que... On est libre de faire ce qu'on veut. S'il veut pas voter, il vote pas, ça va pas me changer ma vie. Moi, je vote parce que voilà, il faut voter, surtout pour notre avenir. Après, s'il veut pas voter, c'est son problème, quoi. Je suis la seule de la famille qui va voter, limite. Enfin,
un bon politique, il ferait quoi pour toi ?
Déjà, le droit des femmes qui soit bien reconnu. Après, c'est un tout, hein. C'est retour au franc. Je sais pas, c'est augmenter les salaires, c'est un tout. Être reconnu à sa juste valeur, pourquoi pas baisser les usines qui marchent à 200 à l'heure. C'est un tout, en fait, c'est améliorer le système actuel pour tout le monde.
Arc-la-Bataille, 76-880. Résultat des élections législatives 2024 de la 6e circonscription de Seine-Maritime. Patrice Martin, Rassemblement National, élu à l'Assemblée nationale au second tour avec 51,21% des voix. Abstention, 31,34%.
Moi déjà, la politique, je suis pas fan. Enfin, je sais que c'est important, c'est super important. J'essaie de me renseigner, de me documenter, tout ça, mais c'est très compliqué, je trouve. C'est pareil, c'est un peu un truc qu'on nous explique pas trop non plus, en fait. Voilà. Je trouve qu'on est une génération qui est très réseaux sociaux, tout ça, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'outils à notre portée. Et en fait, j'ai l'impression que, clairement, il n'y a personne qui est capable de nous expliquer clairement la politique, tout ça. Je trouve que ça reste assez flou par moment. Donc on entend des idées, on entend des choses qui nous plaisent, et puis en fait, on regarde que par rapport à ça, et on ne cherche pas plus loin par moment, je trouve. Donc je sais pas, franchement j'évite d'en parler parce que moi-même c'est un sujet que je suis pas toujours hyper calé là-dessus. Et puis en plus c'est souvent source de conflits, je trouve, dans les familles, entre amis, tout ça. Je crois que j'ai déjà dû un peu me disputer avec deux trois amis sur des idées qu'ils avaient que moi j'avais pas, et enfin un peu débattre et tout ça, et au final je trouve que c'est mieux parfois de pas en parler du tout.
Un responsable politique devrait faire quoi pour toi?
Déjà qu'il soit plus équitable au niveau de la justice. Quand on voit qu'un violeur ou un pédophile prend moins qu'un dealer, je suis désolée, mais ça a beaucoup plus d'impact, un violeur ou un pédophile, sur l'humain qu'un dealer. Parce qu'il y a les traumatismes et tout, enfin, c'est un autre sujet, mais voilà, je trouve que la justice n'est pas bien faite. Quelqu'un qui soit plus pour le peuple aussi. Donc, tout le monde est un peu dans la merde. Mais je trouve que la vie est assez compliquée et puis que ça ne s'arrange pas avec le temps. Ils augmentent tout de jour en jour. Enfin, moi, j'entends mon père se plaindre quand il est au téléphone avec ma grand-mère sur tout ce qui se passe en ce moment. Moi, je ne regarde pas trop les infos tout le temps. Mais je m'en renseigne par-ci, par-là. Et je trouve que c'est un peu compliqué en ce moment. Baisser la TVA, déjà, ça peut être mieux. Parce qu'augmenter des salaires, c'est bien, mais s'ils augmentent tout derrière, ça sert à rien. Donc, qu'ils soient plus pour les travailleurs aussi, ça serait bien. Puis, pour l'instant, il n'y a rien qui me vient d'autre à l'esprit.
Est-ce que, selon vous, tous les votes sont admis? Ou est-ce qu'il y a un vote qui n'est pas admis?
En gros, vous me demandez si... Si le RN, les gens, c'est mal s'ils votent pour eux, non? Non, pas du tout. Enfin, je sais pas si je peux le dire, mais on peut dire ce qu'on vote, quoi. moi, j'ai voté le RN, donc je suis pas du tout contre eux, au contraire.
Il y a des jeunesses et donc il y a aussi des votes. C'est-à-dire que, typiquement, on met très souvent en avant Jordan Bardella, ses followers sur TikTok, on met en avant que le RN aurait un certain aura parmi les jeunes. Bon, alors c'est effectivement vrai, mais uniquement dans une petite partie de cette jeunesse. Et en fait, quand on regarde d'ailleurs en termes de valeurs, la jeune génération est la plus ouverte à l'immigration, au multiculturalisme, aux enjeux d'égalité de genre, etc., etc. Autrement dit, beaucoup de jeunes sont en fait extrêmement rétifs au vote rassemblement national, mais il n'empêche que parmi eux, vous aurez effectivement une proportion non négligeable de votants RN. Mais le premier vote qui reste marquant parmi ces jeunes générations, c'est quand même un vote pour le Nouveau Front Populaire ou pour un Jean-Luc Mélenchon en 2022. Alors pas forcément parce qu'ils adhèrent complètement à la personnalité d'un Jean-Luc Mélenchon, mais effectivement, le premier vote des jeunes, une fois qu'on a pris en compte l'abstention, ben, ça reste la gauche dans son ensemble. Alors, de toute façon, il en est des jeunesses comme des autres groupes, c'est-à-dire que on ne peut comprendre les votes et la pluralité de ces votes que en les intégrant à d'autres dimensions sociales, économiques, territoriales. Typiquement, les jeunes ruraux ne votent pas nécessairement comme les jeunes urbains, qui ne votent pas nécessairement comme les enfants des classes moyennes supérieures ou les enfants des catégories populaires. Enfin, vous voyez, donc, de toute façon, un jeune, c'est aussi un jeune qui a une origine sociale, qui est inclus dans un territoire, qui a un genre, et qui, voire même, a certaines origines, et ces origines peuvent peser sur la manière dont ils perçoivent le monde politique et pour qui ils souhaitent voter. Donc, effectivement, derrière, on doit analyser la jeunesse au prisme de l'ensemble des variables qui généralement permettent de comprendre les votes. Les jeunes sont aussi divisés que l'ensemble de la société sur ces questions.
Bien que le vote pour le Rassemblement national ait explosé chez les jeunes, ce qui est un peu contre-intuitif.
Alors, il n'a pas explosé, en fait. D'accord. Une fois que vous prenez en compte notamment l'abstention, vous vous rendez compte qu'en fait, il y avait plus de votes pour le RN parmi les générations nées dans les années 40 et 50, et ça s'est encore accru lors des dernières législatives. En fait, le premier vote des jeunes, ça, quand ils votent, hein, ça reste la gauche.
Ce qui fait mon engagement, ça serait tout ce qui tournerait autour de l'égalité des chances, les luttes contre les discriminations, qu'elles soient que ce soit autour du racisme, que ce soit autour de l'homophobie, du sexisme. C'est des combats qui sont importants pour moi parce que c'est des choses que soit j'ai pu vivre déjà ou des choses que j'ai pu voir. C'est des choses qui m'indignent. Selon moi, on reste beaucoup dans un déni, où on n'arrive pas à accepter qu'on vit dans un pays, par exemple, où il y a des discriminations systémiques qui existent. Si je prends le racisme, il y a un racisme systémique qui existe. Et par exemple, les politiciens, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas admettre que ce système existe. Et tant qu'on n'admettra pas qu'il y a des personnes qui continuent de subir des discriminations, bah, on n'avancera pas. Je me suis dit, mais en fait, t'es noir et souvent on va te faire revenir à cette condition-là, finalement, qui est une construction. Ensuite, il y a d'autres conditions auxquelles on me ramène aussi souvent, comme le fait que je porte le voile, ou quand je postule, par exemple, je suis animatrice pour des colonies de vacances. Et quand j'essaye de postuler à des colonies, bah, souvent je me sens obligée de préciser que je porte un voile parce que j'ai déjà entendu des témoignages de personnes qui avaient du mal à trouver du travail parce qu'elles portaient un voile. Et quand je précise et qu'on me dit, ah bah non, on est désolé, ça sera pas possible, alors que ça fait pas forcément partie du service, enfin, c'est pas forcément des organisations qui font partie du service public. Quand ça fait partie du service public, c'est une chose que j'entends par rapport au principe de neutralité. Donc je sais que je ne me dirigerai pas vers le service public pour travailler, étant donné que je ne souhaite pas retirer mon voile. Et lorsque je me dirige vers des organisations privées qui me disent, bah, par principe de laïcité, bah, ça va pas être possible si vous le retirez pas, je me dis, ah bah d'accord. Et ça, bah, c'est arrivé une quinzaine de fois, on va dire. Et des fois, je me dis, bah, enfin, déjà sous couvert de laïcité, dans une organisation privée, il y a, enfin, on voit une confusion qui se fait finalement aujourd'hui en France sur le principe de laïcité, qui est confondu avec le principe de neutralité par le service public. Et enfin, comment je le vis, bah, des fois, je me dis, bah, est-ce que tu trouveras ta place finalement quelque part ici ?
Bah, je suis pas mal engagée sur les causes féministes. De par ma position de femme dans une société patriarcale. Et puis j'ai aussi une maman qui est très engagée sur ces questions-là. Et donc on n'a pas du tout le même féminisme, mais elle a aussi œuvré, je pense, quelque part dans mon éducation. Est-ce que ce soit des choses qui me touchent ? Plus récemment, au vu de ce qui se passait en Palestine, bah, du coup pour la cause palestinienne, il y avait ça. Puis, basiquement, plein de choses qui me saoulent, quoi. J'ai pas... La réforme des retraites, par exemple, je suis pas très contente. La loi... globale surveillance. Enfin, évidemment, j'étais pas pour. Je pense que j'ai plein de choses à apprendre. Et particulièrement aussi parce que je reste quand même... Enfin, pour moi, c'est important aussi, je reste une personne blanche... je reste quand même, je viens d'une famille qui n'est pas ultra précaire. Enfin, ça reste des petits avantages dans le grand jeu de société de la vie qui sont quand même genre pas négligeables. Et donc pour moi, je veux valoriser des causes qui me tiennent à cœur. Et en même temps, je pense que j'ai genre tellement encore à apprendre dans ce militantisme des personnes concernées, des chercheuses qui travaillent sur ces sujets-là. Mais c'est pas pour autant que je pense que tu peux... Enfin, qu'il n'y a rien à faire quand tu t'y connais pas, tu vois. Enfin, juste des fois, tu fais des gourdes et les gens te reprennent et t'es en mode, ok, oui, c'est vrai, j'étais con. Bon, bah maintenant, je sais, tu vois. Donc, je suis, par exemple, moi, je suis pas sur la fin de ma vie professionnelle et donc je vais pas arriver à la retraite avec une retraite complètement minable, mais je crois les personnes qui sont en mode, aïe, genre là, ça va faire très très mal, tu vois. Et puis, en fait, moi, j'aimerais bien avoir une bête de retraite aussi, tu vois. Enfin, basiquement.
Vincent Tibéré, j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu sur la lutte environnementale. J'ai eu le sentiment qu'elle était très située socialement, beaucoup plus que la question du féminisme et la question du genre. Comment est-ce qu'elle est située socialement, cette lutte ?
Alors, effectivement, si on reprend les questions d'environnement, on est... Mais... Là encore, hein, encore une fois, les jeunesses sont aussi incluses dans des contraintes qui dépassent simplement le fait d'avoir un âge à un moment donné. Hein, typiquement, vous êtes un jeune qui vivait dans la ruralité, votre rapport à l'environnement est pas le même que qu'un jeune qui vient d'un milieu urbain favorisé, qui apprend à gérer les questions de vélo, etc., etc. Donc ça fait partie effectivement de la continuation de clivage au sein de la société dans l'adaptation au changement climatique. Si on peut également rajouter que ben, la génération dont on parle a notamment été la génération climat hein, qui s'est mobilisée dans les années 2019-2020 avec les Fridays for Future, autour de Greta Thunberg, etc., etc. Mais quand on regardait de près ces manifestations, c'était d'abord et avant tout plutôt des jeunes issus des milieux moyens, voire supérieurs, vivant dans les grandes villes et étant sensibilisés à ces questions-là. Donc effectivement, la cause du climat mobilise d'abord et avant tout ces classes moyennes.
Est-ce que vous ressentez de l'éco-anxiété ?
Pardon. Attends, moi j'ai besoin de précision. Écologie, hein. Écologie. Pas économique.
Non. Ah, d'accord. Non. Je suis de la structure économique.
Je suis très anxieuse du capitalisme grinçant de l'extrême droite dans mon pays, vraiment. Ouais, non, c'était juste petite.
Le terme d'éco-anxiété, il me dérange parce que. Non, je suis juste inquiète, oui, en termes de justice sociale, d'environnement, mais comment ne pas l'être quand juste il est question de vie ou de mort en termes de discrimination, d'écologie. Donc anxieuse, oui, après éco-anxieuse, je pense pas.
J'ai pas grand-chose à rajouter, je rejoins ce que disait Elisa, Je suis pas anxieuse, des fois je me sens un peu dépassée parce que je peux lire ou je peux entendre par rapport aux nouvelles écologiques. Enfin, c'est juste que j'ai l'impression des fois d'être un peu genre. Il y a un raz-de-marée qui m'arrive dessus parce que en vrai, toi tu as beau. C'est une conversation qu'on a déjà eue en plus ensemble ici, enfin à la coloc quoi. Toi, tu fais entre guillemets du mieux que tu peux de ton côté, dans ton quotidien, pour limiter par exemple ton empreinte carbone ou pour limiter la masse de déchets que tu produis, etc. Mais en réalité, on vit aussi dans des sociétés capitalistes où, genre, on est poussé à la consommation. Donc, des fois, tu fais genre trois pas en avant, après, tu lis ce qui se passe dans le monde et t'es genre, bon, j'ai fait trois pas en arrière, c'est parti, tu vois. Enfin. Du coup, oui, je suis anxieuse. Après, comme Elisa, je pense que c'est des questions qui m'intéressent et que je regarde du coin de l'œil. Et en même temps, j'ai l'impression que si je les regarde trop, ça me flingue, quoi. Du coup,
oui. Je pense quand même très souvent.
Très souvent. Non, mais oui, carrément.
Je trouve que le terme, il pose problème parce qu'il ramène le problème du côté de l'individu, dans le sens où... Il y aurait un problème parce que moi, j'ai de l'anxiété, alors que le problème, c'est pas que moi, je suis éco-anxieuse et que du coup, c'est un problème très individualisant qu'on ramènerait à ma propre santé mentale. Le problème, pour moi, il est systémique. Comme tu as dit, c'est un problème de société capitaliste qui juste détruise le monde. Et j'ai pas envie de ramener ça à moi, ma petite personne. Je suis éco-anxieuse alors que c'est vous qui foutez le bordel, quoi. Donc... Oui, ça peut provoquer de l'anxiété, mais c'est la conséquence. C'est pas le phénomène à traiter.
Tu es consciente, quoi.
Voilà. Je suis.
Je suis
consciente.
Je pense que je suis.
Je suis woke. Non, mais.
Je suis woke.
Ouais. Non, voilà, je suis consciente des enjeux. En tout cas, j'essaye de l'être, mais c'est pas notre anxiété en tant qu'individu qu'il faut solutionner, je pense.
En fait, aussi, je trouve qu'on est quand même dans une génération qui avons toujours grandi avec le fait qu'il y avait des changements climatiques, etc. Et alors qu'avant... En fait, les autres générations, ils le voient se détériorer parce qu'avant, la vie n'était pas comme ça. Nous, on a quand même majoritairement vu la vie comme ça. Donc, du coup, c'est grave et on s'en rend compte. Mais en fait, enfin, c'est tellement notre quotidien depuis qu'on est né que c'est juste barbant, en fait, parce que, bah oui, OK, bah, comme tu dis, Andrea, je suis là, je jette pas mes mégots par terre, je trie, enfin, j'essaie d'acheter des trucs éco-responsables, etc. Mais en fait, il y a un moment où, comme vous dites très bien, les filles, si le système y suit pas et si les grosses marques comme McDonald's, Chine, etc., ça continue, bah, c'est sûr qu'on va aller dans le mur, quoi. En plus, nous, on est une génération qui est vachement... sujet à l'anxiété pour plein de raisons. Enfin, je veux dire, le confinement, typiquement, ça a grave augmenté les taux d'anxiété, etc., chez dans notre génération. Mais là, ça rajoute un truc aussi. On est dans la surinformation. Nous, on y participe beaucoup. Donc, forcément, en fait, on est tellement au quotidien au courant qu'on va tous crever parce que, de toute façon, la planète, elle va être sans dessous. On n'est même plus anxieux de ça. C'est juste notre quotidien. Donc, c'est stressant, c'est sûr. Mais en fait, comment voir quelque chose sur le long terme si, en fait, on ne nous promet pas une vie sur le long terme, quoi?
Est-ce que nous-mêmes, on sera prêts face aux défis qui arrivent déjà, qui est déjà arrivé? Ça va aller qu'en empirant, en fait.
Toi, comment tu fais pour vivre avec cette incertitude?
Oh, moi, je vis bien. Moi, je suis simple. Moi, je suis pas dans le délire du tri sélectif, il faut que chacun agisse à sa petite échelle pour machin. Moi, je suis plus pour essayer que les gens comprennent que c'est politiquement ou c'est par la voix du plus grand nombre qu'on peut interagir. Parce que c'est sympa de voir la poubelle jaune chez toi, mais si la France, elle respecte pas ses engagements, elle est condamnée plusieurs fois pour une action climatique, ta poubelle jaune chez toi sert à rien. Peut-être dans ton cas de conscience, dans ton exercice si tu fais un cas de conscience et que tu te dis, ouais, pour montrer à mes enfants, c'est sympa de faire un compost, c'est sympa de faire une petite poubelle, ça aide. Bien sûr que ça aide. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou est-ce que ça change vraiment les choses? Je ne sais pas.
Est-ce que t'as peur pour tes enfants?
Non, j'ai pas peur. J'aurais pas peur pour mes enfants. Je pense que la société française en particulier a un don pour s'adapter très vite à des changements de situation qui étaient fortuits et pas prévus au départ. Je pense que si mes enfants vivent en France dans quelques années, avec moi et ma famille, je pense que... C'est pas que ça va bien se passer, mais je pense que j'ai pas d'inquiétude particulière par rapport à ça.
Et toi, Loana, vous parlez des questions environnementales dans ta famille?
Mon père, il croit pas du tout au réchauffement climatique. Ma sœur, je sais qu'elle fait le tri. Enfin, là, bientôt, ils font même du... Comment ça s'appelle?
Compostage.
Ouais, voilà. À Saint-Nicolas, ils en parlaient. Après, ma mère, je sais pas si elle le fait, je crois pas. Je suis pas très famille, du coup, je suis pas tout le temps avec eux. Du coup, je peux pas vous dire leur habitude, mais je sais que ceux que je connais... Bon, plus ou moins le tri, enfin nous on a les poubelles jaunes mais on n'a pas de compostage ni rien, enfin on fait le minimum quoi, on fait pas de... Enfin ma sœur un petit peu plus, c'est que ma sœur récupère l'eau de... Avant que l'eau soit chaude, elle récupère l'eau pour arroser ses plantes.
Bien.
Du coup, c'est pas grand chose mais ça sert toujours quoi, c'est toujours ça de plus.
Est-ce que par exemple vous adaptez vos régimes alimentaires? Est-ce que vous mangez moins de viande? Est-ce que... Ou de façon générale, est-ce que vous changez un peu votre mode de vie pour des questions environnementales? Ou ça fait pas du tout partie de vos priorités? Toi, Loana?
Tout ce qui est niveau viande, c'est pas pour la planète, c'est surtout parce que ça coûte cher en soi, mais...
Quand je retiens Génération Désenchantée, personnellement, c'est parce que, de fait, des responsables politiques ont failli. Et même ont failli à ne serait-ce que écouter ce que sont les jeunes et ce qu'ils souhaitent faire passer. Donc ça, c'est un vrai souci. Et dans le même temps, vous avez des formes de réenchantement, mais par autre chose. En gros, typiquement, vous créez une assoc avec des potes, vous vous mobilisez pour organiser des maraudes, vous créez de la solidarité au quotidien, vous mettez en place des nouvelles manières de faire de l'agriculture, de produire des biens et des services. Enfin, vous voyez, vous créez, vous avez très clairement de quoi créer des nouveaux mondes et des nouvelles manières d'être. Donc, le désenchantement, c'est face à la politique institutionnelle, mais c'est clairement pas face à ce que peut être l'ensemble de la société. On est aujourd'hui dans une situation où on est face à des générations qui savent, en gros, qui ont d'abord un niveau de diplôme, un niveau de littératie beaucoup plus élevé que leurs prédécesseurs, y compris les prédécesseurs qui ont maintenant 20 ans de plus, hein, mais qui ont également des moyens de s'informer de manière assez impressionnante. Hein. Il faut quand même, on parle là de la génération qui vraiment est née avec les réseaux sociaux et Internet et qui sait l'utiliser pour aller chercher l'information qui les intéresse. Donc c'est pas un défaut d'information, c'est pas un défaut de volonté de s'impliquer. C'est effectivement une inadéquation entre la démocratie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui et celle qu'elle qu'il pourrait soutenir. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une démocratie? Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Et très clairement, encore une fois, ben, ces jeunes ont tendance, du coup, à faire citoyenneté à part, citoyenneté autrement que en tant qu'électeur. Ils sont capables de se mobiliser pour des très très belles causes. Ils sont capables de se mobiliser pour recréer du lien, pour effectivement être festif, pour être dans la logique où on remet un peu de la couleur dans le monde, quoi. Voilà. Il y avait cet humoriste qui parlait de la remets-moi des paillettes dans la vie, Kevin. Bon, de fait, les paillettes, beaucoup les produisent eux-mêmes, quoi. Et en plus, elles sont biodégradables. Donc, je pense qu'ils sont en train, effectivement, de nous créer des passerelles et des alternatives qui peuvent être des alternatives joyeuses. Voilà. C'est quelque part, c'est juste des alternatives qui ne sont pas raccord avec la manière dont les générations précédentes voyaient la joie. Et typiquement, je pense que pour beaucoup de ces jeunes activistes, l'idée que la consommation soit de la jouissance, ça les fait pas kiffer. En revanche, vivre autrement, ça les fait kiffer et il y a de la joie dans leur manière de voir les choses.
Station Gare des Mines, porte d'Aubervilliers. Ce soir, Andrea Mix et elle nous a invités. À l'entrée, des vinyles sont à vendre. Une pancarte indique « Tout le merch est reversé à la caisse Solidarité Palestine ». À droite, l'épicerie précise, à la gouache verte, Lyon et Twix, 2 euros. Chips, 1 euro. Minuit. Les corps sont encore rouillés de la journée. Au fur et à mesure, la soirée se remplit. Le costume de fête est enfilé, mais pas de fringues de prix. Des vêtements chinés, chemises à carreaux et vestes en cuir qui ont vécu. Des cagoules tricotées, des casquettes en velours, des pantalons de jogging. Des marques des années 2000 ont fait leur retour. Reebok, Kickers, DDP. De l'extérieur, où on boit des verres et se chauffe pour la soirée, on entend la salle de bal rugir. Mais c'est dans les toilettes que l'on peut le mieux saisir l'époque. Des autocollants maculent les murs. On peut y lire « Enfants intersexes, stop aux mutilations ». Too sexy for a job. Augmenter les salaires, le pop-up, c'est trop cher. Free Kanaki. Solidarité, peuple kurde. Thanks God for abortion. Liberté, ils ont écrit ton nom.
Je pense que la fête est totalement un acte de résistance, sous énormément d'aspects. C'est important, surtout dans des temps politiques où c'est hyper dur pour... le droit à fêter, c'est un droit qu'on essaye de nous enlever aussi, puisqu'on sait très... Enfin, parce que tout le monde sait très bien que c'est des mouvances militantes en soi de faire la fête, de se réunir. C'est pas pour rien que la CGT, ils ont toujours des chars, où ça fait du son, et machin, et tout le monde boit, et tout le monde rigole, etc. Le fait de se retrouver, c'est un acte militant de ouf. Et du coup, les lieux de fête, c'est, pour moi, c'est des lieux où... Même si t'as pas l'impression que t'es en train de militer pour un truc, t'es en train de militer pour un truc, t'es en train de militer pour ta liberté de te déplacer, t'es en train de militer pour ta... Attends, je me suis perdue dans ma phrase. T'es en train de militer pour ta liberté à rentrer chez toi à n'importe quelle heure, t'es en train de militer pour écouter de la musique. Par contre, j'aime pas la fête en mode... Moi, j'aime pas quand les gens, ils sont assis dans des canapés et ils sont là genre, oh oui, alors ils emploient des grands mots géopolitiques et tout. Mais c'est juste parce que moi, je les connais pas très bien, les grands mots géopolitiques. Et du coup, à la fois, je suis larguée et à la fois, je suis genre, tu fais rien, en fait. Enfin, tu parles, mais tu fais rien, t'es pas dans la rue, t'es pas en train de donner ton temps à je sais pas quel asso. C'est un jugement, ça, pour le coup, tu vois. Mais moi, c'est pas la façon dont j'ai envie de vivre, en tout cas... cette fête-là, et c'est pas la façon dont je vois mon militantisme, tu vois. Quelle invention de fou furieux, les clubs, c'est juste trop bien. Et je pense que c'est, ouais, c'est grave militant. Moi, je sais que dans mon équilibre d'humain, j'ai besoin d'espace où je pense pas. J'ai besoin d'espace où, genre, je sens que mon corps, il est parmi une mare d'humains, une masse d'humains monstrueuse. Il est à là où il veut être, et genre il fait ce qu'il veut, et il s'habille comme il veut, et enfin, tu vois, tout ce qui va avec de liberté. Je pense que tu peux grave utiliser le fait de faire la fête ou le fait de se réunir pour aller convaincre des électorats pour aller... tu vois grave, il y a grave des mouvances de faire la fête via Twitch. C'est trop bien, tu vois, que les gens, ils se politisent par ce biais-là. Il faut vraiment pas qu'on passe à côté, tu vois.
Le géant m'a prévenu. Ses yeux égarés dans la nuit ont vu pour moi le désastre des mondes à venir. Depuis, la tête tenant fébrilement à l'épaule, je vois ce soleil qui, si fort, brille perché haut sur mon front. Simon Johannin, la dernière saison du Monde.
Pourquoi est-ce que tu t'engages ? Est-ce que tu as des valeurs qui tiennent particulièrement à cœur ?
Ouais. Ça dépend dans quel sens on s'engage. Est-ce qu'on fait des dons ? Est-ce qu'on fait des, je sais pas, des maraudes si on travaille à la Croix-Rouge ou si on fait des posts sur Instagram ou... Il y a plein de manières différentes de s'engager. Moi, j'ai toujours eu un œil sensible à la cause des démunis, au rapport entre les gens d'en bas et les gens d'en haut, soi-disant élite, quoi.
Et du coup, toi, ça prend quelle forme ?
Ça prend la forme de... Parce que j'ai déjà fait des dons, notamment pour le cancer du sein, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'avais donné au Resto du Cœur quand on était au collège. On donnait à la banque alimentaire aussi, je me rappelle. Ils venaient avec des cartons, ils nous ramenaient des sacs de riz de chez nous. On donnait, ouais, des petites actions comme ça.
Alors, mon engagement, il se traduit très souvent sur les réseaux sociaux déjà, d'une part, étant donné que vraiment les réseaux sociaux aujourd'hui, ils ont pris une place hyper importante dans notre quotidien. C'est vraiment devenu un nouvel espace public et c'est ce qui fait qu'on en profite pour parler et sensibiliser les gens qui sont autour de nous. Donc à travers des messages, à travers des posts, je relaie souvent ce qui est posté par des médias sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, moi-même, je commente un peu ce qui se dit. Donc les personnes qui sont autour de moi comprennent un peu où est-ce que je me positionne. Et j'essaie aussi de participer à des manifestations lorsque j'ai le temps. Et aussi différentes conférences pour comprendre mieux le sujet et en parler surtout autour de moi. Parce que même dans notre cercle restreint, des fois, il y a des personnes qui comprennent pas forcément certaines choses. Et donc, si moi, je peux leur apporter au moins mon ressenti et qu'on puisse échanger nos différents ressentis, je pense que c'est une façon de se sensibiliser mutuellement.
Comment est-ce que je lutte ? Déjà, mes réseaux, parce que je poste mais je poste quand même beaucoup de posts. Enfin, dès que je trouve un post intéressant et j'aimerais partager une information ou un point de vue ou quoi, je le mets dans ma story. Donc, de facto, il peut avoir une sorte de petite visibilité avec les personnes qui regardent ma story. Ensuite, je vais en manifestation. J'essaye les boycotts aussi. Enfin, voilà. J'essaye, en tout cas, à mon échelle, de faire des petits trucs qui montrent mon engagement, quoi. Voilà. Pour être tout à fait honnête, je me sens pas réellement représentée dans la politique. J'ai pas confiance en les dirigeants. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que les choses avancent. Il y a quand même des choses qui se sont produites, qui ont fait qu'à l'heure actuelle, je suis une fille, je peux travailler, je peux étudier gratuitement en France, que t'es là, femme aussi, à m'interviewer. Enfin, voilà, enfin, il y a des avancées, bien évidemment. J'espère juste qu'il y en aura plus. Mais ouais, en toute honnêteté, j'ai pas trop confiance en les politiques.
Comment est-ce que ces nouveaux combats infusent Vincent Tibéri ? Comment est-ce que les jeunes changent le monde ? Comment est-ce qu'ils changent le vieux tonton réac au repas de famille ?
Alors, d'abord, ils le changent, mais c'est à bas bruit. Et pour l'instant, le vieux monde résiste quelque part. Hein, et les vieux réflexes demeurent, tout simplement, notamment parce que on est quasiment un jeune sur deux qui n'aille pas voter, non pas parce qu'ils sont pas des citoyens, mais parce que la politique telle qu'elle est ne leur plaît pas. Il n'empêche que ça donne encore plus de poids à des vieilles générations et notamment aux conservateurs dans ces vieilles générations. Donc effectivement, le vieux monde résiste et pour l'instant il domine, mais en même temps ça n'a qu'un temps, l'avenir appartient à ces jeunes générations, pour peu qu'elles vieillissent bien. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, les changements, ils les instillent et on le voit dans les enquêtes. Et typiquement, un des trucs qui m'a le plus frappé, c'est combien en à peine une trentaine d'années, on est passé d'une société hétéronormée qui rejetait l'idée même de l'homosexualité à une société qui désormais considère que deux hommes, deux femmes qui s'aiment et qui ont des enfants, c'est normal. Et ça, ça passe notamment par les jeunes générations. Ça passe parce que certains de mes collègues ont appelé la socialisation inversée. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'au sein des familles, les jeunes générations réussissent à faire bouger leurs parents et leurs grands-parents. Alors effectivement, le moment de clash peut être compliqué, mais c'est déjà le début de l'acceptation qu'effectivement la société bouge et qu'il va peut-être falloir faire de la place à autre chose que ce qu'on pensait comme acquis, naturel, indéboulonnable, etc. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Donc ça, en fait, la politique, elle se passe peut-être moins par le bulletin de vote, mais plus dans le quotidien, les relations familiales, les relations affectives, les relations amicales. Et mine de rien, ben, la société, elle est en train de se transformer.
Ma mère, par exemple, me disait souvent que qu'il y a des choses dans sa génération dont on parlait pas. Par exemple, la sexualité, mais pas la sexualité, comment dire? C'est-à-dire que c'est venu un peu plus tard, quoi. Elle, après, ma mère, elle est née en 67, donc elle a vécu les années 70, 80, 90. Il y a eu une sorte un peu, j'ai l'impression, hein, je ne l'ai pas vécu, mais d'ouverture et de laisser aller, on va dire. Enfin, ils se sont un peu détendus. Mais à notre génération, on peut parler, bah, par exemple, l'homosexualité. Bah, tout simple, l'homosexualité, c'est un truc aujourd'hui, c'est tellement OK. Et c'est tellement pas OK de ne pas être OK avec ça. L'identité de genre, les personnes trans... c'est les personnes trans se cachaient à l'époque. Aujourd'hui, elles ont beaucoup moins besoin de se cacher en France, en Europe, dans certaines villes, évidemment. Non mais j'allais oublier le plus important. C'est pas parce que je suis habillée comme ça que je me suis fait agresser. C'est parce que t'es un gros porc. Ça, c'est un truc auquel on parlait pas à l'époque de ma maman. À l'époque de ma maman, c'était t'es vulgaire, faut pas que tu sortes comme ça, tu vas te faire voir, rentre pas tard toute seule, nani nana. Aujourd'hui, on inverse les rôles. La honte, elle passe de l'autre côté. C'est des trucs qu'on parle beaucoup plus librement aujourd'hui. Je le vois parce que quand on parle de ce genre de sujet avec ma maman, il y a des trucs où parfois elle est un peu... Elle comprend peut-être pas, mais elle entend que c'est pas normal en fait qu'on ait laissé ça passer pendant tant de temps. Mais elle a été habituée à ça. Donc elle va avoir des discours qui sont... C'est OK, c'est pas grave. Enfin, en vrai, j'en veux pas parce que bah, elle a grandi comme ça et elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a aussi. Elle essaie de s'adapter comme elle peut aussi à cette nouvelle effervescence, mais moi j'ai grandi avec ma maman qui me disait « Sors pas comme ça, t'es vulgaire, tu vas te faire voir. » Mais moi j'ai grandi aussi dans une génération où on est en mode « Mais en fait on s'en fout, je m'habille comme je veux. » Et si t'as un problème, c'est ton problème en fait, c'est pas le mien. Et si tu me fais quelque chose, mais gare à toi. Qu'à l'époque c'était pas comme ça, à l'époque fallait être plus discrète.
Merci à Aïna, Sarah, Mariam, Safia, Ilyes, Léo, Massimo, Mathis, Andrea, Loua, Elisa, Agathe, Sofiane, Lila, Audric, Maeva, Loana et Louve. Et le premier bébé de l'an 2000, Nicolas. Merci à Vincent Tibéry, sociologue. Merci à Judith Meyer, enseignante en sciences de l'information et de la communication à l'Université Sorbonne Paris-Nord, ainsi qu'à Karina Bellassen, directrice de l'espace Georges Turin d'Arc la Bataille. Lecture, Daniel Königsberg. Prise de son, Hélène Langlois, Laurent César, Stéphane Foulon, Hervé Dubreuil. Mixage, Manon Houssin. Archivina, Delphine André. Documentation, Annie Signoret. Chargée de programme, Marie-Vonne Abonivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Les enfants du nouveau millénaire, épisode 4, Un autre futur. Un documentaire de Léa Capuano, réalisé par Rafik Zenin. Charlie likes boys, but she knows I'd hit it.